Bonsoir Christopher Lacaise.
Bonsoir.
Alors c'est forcément une première et je m'en réjouis. Vous êtes l'auteur de La Rosa Perdida aux éditions Jean-Claude Lattès. Et au début de votre livre, il y a un président qui exerce une gouvernance que vous qualifiez de communisme fraternel tropical et étrange. J'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez.
Oui, j'avais envie de d'écrire un livre avec une certaine forme d'absurdité dans ce qu'a pu représenter l'instabilité politique en Amérique latine, c'est-à-dire que ce soit du côté communiste ou que ce soit du côté fasciste, parce que par la suite, ce président-là va être destitué de ses fonctions. C'est un président qui est en quelque sorte une forme d'ombre de tous les vices qu'on peut retrouver dans une certaine pensée de certaines idéologies. Par exemple, il prône un bien commun, mais est le premier à avoir 7 ou 27, je crois, maisons différentes dans lesquelles il habite en fonction des saisons dans différents endroits. Il y a quelque chose de très égocentrique dans cette personne-là. Et ce que je voulais, c'était aussi me moquer directement et indirectement de certaines idéologies et de surtout... J'ai voulu faire une espèce de parallèle entre Allende et Pinochet, parce que lorsque le général Isidro Gálvez, par la suite, va venir pour prendre le pouvoir et faire un coup d'État, ce sont vraiment des événements que j'ai voulu incarcérer dans quelque chose de faux et de l'ordre de la fiction, afin de donner une autre dimension à ce livre et de faire en sorte que dans les 30 premières pages, les gens puissent rentrer dans un univers où on se dit « Ok, le pays, le village est dirigé par... a été du moins dirigé par un président qui a eu des singes avec lui, qui a eu des baignoires provenant d'Italie dans les plus belles matières possibles, mais qui était quand même celui qui prônait le plus beau des communismes. » Donc c'était une certaine forme de regard un peu cynique sur cette idéologie-là.
Parce qu'au début, ce président est comme ça, et à la fin de votre livre, en fait, vous encadrez votre écriture avec un extrait d'un discours d'un général gouverneur qui date de 1977.
Exactement.
À Buenos Aires. Pourquoi 1977 ?
Alors, en 76, il y a eu le coup d'État de Videla en Argentine, qui a perduré jusqu'en 83. Et en 77, le général, le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui s'appelait Ibérico Saint-Jean, exactement, a dit une phrase qui, lorsque je l'ai lue dans La Llamada de Leila Guerrero, qui a écrit un magnifique livre, justement, enfin, qui a été traduit récemment en français sur tout ce qui s'est passé pendant le régime de Videla en Argentine, de Sylvia Labeyrou, qui était une femme qui a été torturée, qui a été enfermée dans des espèces de camps de redressement, qui a eu un enfant qui lui a été volé, qui a été agressé sexuellement, qui a réussi à s'en sortir. Enfin voilà, j'étais vraiment... vraiment touché par ces histoires de personnes qui ont été disparues, de tous ces mouvements qui ont été faits avec les grands-mères de la place de Mai pour essayer de retrouver ce qu'on leur cachait de toute cette violence qui avait été faite à la suite de la prise du coup d'État de Videla. Et lorsque j'ai lu ce discours, j'ai vraiment trouvé l'idée parfaite de ce que pouvait être la dictature dans, j'ai envie de dire, tout ce qu'elle exprime de plus mauvais en réalité. C'est-à-dire que dans cette phrase, il dit « D'abord, nous tuerons les subversifs, ensuite leurs sympathisants, ensuite leurs collaborateurs, ensuite nous tuerons ceux qui sont indifférents, et enfin nous tuerons les indécis ». Et ça, c'est une phrase qui a réellement été dite par ce général-là à la suite du coup d'État de Videla. Et ça a été un peu l'élément déclencheur de ce livre, de me dire « Ah, j'aimerais pouvoir, moi, expérimenter ce que ça fait que d'être enfermé dans une dictature. » Et ce qu'a pu vivre ce peuple à travers une fiction, ça a été mon moyen, moi, de pouvoir tenter, tant bien que mal, de pouvoir essayer de comprendre ce qu'ils ont pu vivre en tant que peuple à l'intérieur de cette dictature, soit de Videla, soit de Pinochet, soit de Trujillo en République dominicaine.
Mais vous avez quand même une attirance certaine pour la littérature latino-américaine. Qui vous vient d'où ?
Qui vient pas du tout d'Amérique latine. moi, je viens d'une famille qui est composé de deux grandes parties du monde. C'est-à-dire que ma mère est d'origine créole malgache, Madagascar. Mon grand-père est vraiment né à Majunga, Madagascar. Vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Et avec ce grand-père qui s'appelait Michel Leveneur, depuis tout petit, il nous a raconté les légendes de cette famille, de ce qu'il avait vécu. Par exemple, il a eu une maladie très jeune. Sa mère ne savait pas vraiment ce que c'était. D'ailleurs, il ne connaissait pas vraiment son père parce que sa mère a eu de nombreux amants. Et ce qu'il a fait, c'est que ce qu'a fait sa mère, c'est qu'elle l'a mis dans une forêt à Majunga, une espèce de village de sorciers où il y est resté pendant de nombreux mois afin de pouvoir guérir de sa maladie pour en ressortir plus tard, soi-disant complètement guéri, avec un sorcier qui serait venu le voir et qui lui aurait dit « Demain, toi, tu vas mourir. » Et lui, plein d'ego, lui aurait dit « Non. » Mon ami, c'est toi qui vas mourir demain. Il s'avère que le sorcier est mort le lendemain. Que ça soit vrai ou pas vrai, en réalité, je m'en moque. Ce sont des légendes dans lesquelles moi j'ai grandi.
Vous aviez tout pour vous retrouver dans un univers littéraire, en tout cas.
Oui, en tout cas, oui. Tout était très romanesque, surtout qu'en plus, il est décédé quand moi j'avais 20 ans, donc c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans. Et j'ai su il y a 10 ans que tout ce qu'il m'avait raconté n'était que de la fiction. Pourquoi ? Parce qu'il me dit, depuis tout petit, il me racontait les histoires d'un homme qui s'appelait Jacoubeb, qui était soi-disant son meilleur ami, la personne avec qui il avait vécu les plus grands coup, il avait fait les plus grandes histoires, et alors toute mon enfance, on était là au bord du lit en train de raconter des histoires de Jacoubeb, ou alors en train de manger, en train de nous raconter ce qu'il avait vécu à Madagascar, parce que ça nous paraissait complètement éloigné. Moi, je suis jamais allé à Madagascar de ma vie. Et à son décès, j'ai demandé à mes oncles, mais j'aimerais bien retrouver la trace de ce Jacoubeb. Et mes oncles m'ont dit, mais il n'a jamais existé, ça a été que des histoires inventées complètement fausses, quoi. Et dans cette continuité là, ma mère, ici présente, a eu une excellente idée d'aller prendre des masques africains. Elle était passionnée de toute cette culture, du moins, qui venait aussi de nos racines. Et donc, elle en avait mis absolument partout dans la maison. On avait des boucliers avec des lances, on avait des masques qui nous scrutaient la nuit pour être sûr qu'on est bien en train de dormir. On en avait au-dessus de la porte des aigles. Enfin, ça a été, on ne savait pas si on était à Arcachon ou si on était vraiment dans un univers extrêmement tropical, alors qu'on était vraiment au fin fond d'Arcachon. Et puis, tout le monde est tombé malade. Tout le monde a eu des gros problèmes de santé. Moi, j'ai perdu la vue d'un œil à l'âge de 13 ans. Ma grand-mère a eu des gros problèmes de santé. Mon grand-père a fait des cancers. Voilà, il y a eu beaucoup de maladies. Et mon grand-père, très superstitieux, est arrivé, je m'en rappelle très, très bien. Il a pris tous les masques dans la maison, il les a mis dans le jardin. Il les a brûlés en chantant des incantations qui m'étaient complètement inconnues, que je ne connaissais absolument pas. Et je voyais cette fumée monter au ciel et rester collée au ciel, comme je dis dans le livre. Et j'ai grandi dans cet univers-là, du côté de ma maman, et du côté de mon papa, qui sont des immigrés italiens. Ce sont des histoires qui étaient complètement différentes. Ma grand-mère me racontait, j'ai dormi de longues années avec ma grand-mère, des os qui tombaient de la cheminée, qui composaient un squelette qui venait te hanter la nuit pour les gens qui n'étaient soi-disant pas
sages. Vous avez eu une enfance quand même très rigolote, effectivement, Christopher Lacquet. Tout ça est
Vrai.
D'un grand calme.
Voilà, exactement. J'ai fait mille choses, surtout qu'on vient d'une famille de révolutionnaires qui, soi-disant, auraient craché sur la photo de Mussolini en Italie, d'où le fait qu'on soit exilé par la suite. D'accord. Donc, si vous voulez, les légendes, il y en a eu toute ma vie. Donc, la première fois que j'ai lu la littérature latino-américaine, je me suis dit, j'ai comme l'impression qu'on me parle de moi. Donc, ça m'était très éloigné, mais en tout cas, ça me touchait de très près.
Mais est-ce que, du coup, on pourrait dire, parce que dans ce que vous racontez, ça m'évoque encore plus le fait que dans votre livre, on a la sensation que le personnage principal, c'est la mort.
C'est la mort, le personnage principal, en quelque sorte. C'est aussi un ensemble de personnes. C'est aussi un nous, un on qui s'exprime. C'est un individu qui parle toujours au nom d'un groupe. Pour moi, c'était important que cette identité, ce narrateur qui est en train de raconter cette histoire qui est ce livre, on ne sache pas vraiment pour qui est-ce qu'il prend la parole, qui sont cet ensemble de personnes, est-ce qu'il parle pour le peuple, est-ce qu'il parle vraiment pour lui, parce que des fois, il a des opinions qui sont vraiment présentes. Et effectivement, la mort revient toujours. La mort revient toujours parce que, ça c'est quelque chose de très intime, mais ce livre est né à la suite de trois décès, en réalité, que j'ai eu. En janvier 2024, j'apprends que mon meilleur ami vient de décéder, en pleine nuit, il ne s'est pas réveillé, il a eu des problèmes de santé, il ne s'est pas réveillé. Et ça, ça a été un bouleversement pour moi, parce que c'était le parrain de ma fille, c'était vraiment la personne la plus proche avec qui j'étais. Et de là a commencé à naître le désir de vouloir raconter vraiment une histoire. J'avais déjà écrit auparavant des nouvelles, mais qui étaient vraiment super intimes. J'avais pas du tout envie de les publier ou autre.
Et je fais une parenthèse, vous avez publié, mais pas en tout cas voilà. Dans le domaine de la narration.
Parce que exactement.
Vous avez publié 3 livres, mais voilà. Rien à voir.
Qui n'ont rien à voir avec le domaine...
Dont un petit traité de la mort.
Dont un petit traité de la mort. Et vous allez voir pourquoi j'y arrive.
On a tout notre temps.
Et en fait, si vous voulez, j'ai ça. Et 3 mois après, j'apprends le décès de mon papa. Pareil, d'un infarctus foudroyant. Et encore 3 mois plus tard, j'apprends le décès d'un ami à moi d'enfance avec qui j'ai grandi, malheureusement d'un cancer. Ce qui fait que toutes ces morts qui ont gravité autour de moi m'ont poussé un peu comme à vouloir exprimer quelque chose qui était enfoui, qui avait besoin de sortir. Et à la base, je n'avais pas du tout écrit ce manuscrit-là. À la base, j'avais écrit un livre qui était complètement différent, qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Et c'était extrêmement difficile, le processus d'écriture. Il était très difficile, je n'arrivais pas à écrire, je n'arrivais pas à m'y mettre. Je souffrais profondément parce que j'allais puiser dans des endroits que je n'avais pas forcément envie d'aller voir. Et puis, je vais voir une autrice à moi, une copine à moi qui est autrice au Tripode, qui s'appelle Audrey Willemy, à qui j'envoie mon manuscrit, et avec qui je vais manger au restaurant, et qui me dit une phrase qui fait... pas du tout plaisir lorsqu'on l'entend, mais qui est en réalité une profonde vérité. Elle me dit parfois on écrit des livres qui ne sont pas faits pour être publiés, mais pour pouvoir faire sortir quelque chose en nous afin de pouvoir écrire plus tard le bon, le vrai livre, celui qui doit sortir. Sauf que moi, quand elle me dit ça, ça fait quand même 8 mois que je travaille sur un roman. J'ai pas forcément envie d'entendre le bon, le vrai livre. Ouais, voilà, exactement. Moi, je me dis, c'est celui-là le vrai livre. Je décourage un petit peu, j'arrête d'écrire. Pendant 2 mois, j'arrête et je m'en vais à Amsterdam et je vais visiter le musée de Van Gogh. Voilà. Moi, je suis autodidacte de base, donc j'ai très peu de connaissances au niveau de l'art. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment très peu de connaissances au niveau de, l'art de Van Gogh. Et je mets l'audio guide, j'arrive devant un magnifique tableau. Je ne connais même plus le nom, c'est vous dire l'étendue de mon ignorance. Et il dit une phrase qui, elle, par contre, m'est restée, que Van Gogh tentait de vouloir produire son art avec la simplicité d'un souffle. Moi, je dis, c'est une bronchite que j'ai. Enfin, j'arrive pas du tout. Il y a absolument rien qui sort. Tout est saccadé. C'est difficile. Et puis, je viens à Mola. Ça, c'est pour la suite de l'histoire. C'est une réalité. Je viens à Mola. Je vais voir un ami à moi qui est libraire. Et je lui dis, écoute, je suis bloqué un peu dans mon processus d'écriture. Il m'est arrivé telle ou telle chose. Voilà. Je connais bien Garcia Marquez, mais j'aimerais bien en lire un autre que j'ai pas lu. Qu'est-ce que tu as à me conseiller? Comme ça, le premier truc qui te vient. Et Cristal me dit, t'as lu le Chronique d'une mort annoncée? Je dis, non, pas du tout, j'ai jamais lu le Chronique d'une mort annoncée. Lis-le, lis-le. Je rentre chez moi, j'ouvre le livre, je le lis d'une traite. Et là, je prends un coup, parce qu'en fait, je me rends compte que le processus narratif me plaît énormément et que ça vient comme débloquer quelque chose en moi à ce moment-là. Et dès le lendemain, je fais une nuit intense où je dors profondément. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me réveille, je prends 4 feuilles A5 que je scotche entre elles. Je mets des post-it un petit peu partout. Et une heure après, j'avais mon histoire de créer. Et je regarde ma femme et je lui dis, bon, mais j'ai ça maintenant, il faut que je m'y mette. Et là, j'ai écrit ce manuscrit-là qui est la genèse de La Rosa Perdida, mais qui naît avant tout de l'absence, de disparition, de mort. D'où le fait que j'avais envie de parler d'absence, de disparition et de mort à travers ce qu'a pu vivre un peuple en Amérique latine et qui, je trouve, n'est pas très exploité aujourd'hui en France. On connaît très mal cette culture. On n'a pas beaucoup de connaissances sur ce qui s'est réellement passé et politiquement et sociologiquement. Et j'avais envie de pouvoir apporter ça à travers une fiction et de faire vivre ce que pouvait éventuellement être la dictature, tout en n'ayant jamais vécu moi-même une dictature.
Ah, vous trouvez qu'en France, on s'intéresse pas tellement à cette culture?
Non, c'est pas qu'on s'y intéresse pas. C'est-à-dire que c'est pas une connaissance qui est évidente. C'est-à-dire que on va, par exemple, si on parle du 11 septembre, la connaissance qu'on va avoir en général va plutôt être celle de ce qui s'est passé avec les attentats aux États-Unis, mais beaucoup moins. On parle beaucoup moins de Pinochet et du coup d'État de Pinochet. Je trouve que j'avais envie, en tout cas moi, dans mon désir, de pouvoir apporter pas plus de connaissances, mais disons un regard qui est le mien sur ce qui a pu se passer en créant une fiction où tout est profondément en réalité vrai. Puisque j'ai pris énormément d'éléments qui étaient réels, notamment les vols de la mort, ce qu'a vécu Sophia à l'intérieur, c'est aussi le parallèle de ce que certaines femmes ont vécu, les enfants disparus. Moi, les femmes, les grand-mères ne s'appellent pas les grand-mères de la place de Mai, mais s'appellent les andantes, qui sont ni plus ni moins que celles qui marchent. Donc j'ai voulu créer des parallèles dans une fiction afin de pouvoir parler de quelque chose qui, c'est pas une connaissance qui nous est forcément évidente, et je pense que soit ça nécessite des études auparavant, soit ça nécessite vraiment un intérêt. C'est pas, en tout cas, moi j'ai pas le souvenir à l'école qu'on m'ait parlé de ce qui s'était passé avec Videla, de ce qui s'était passé avec Trujillo ou autre. Après, vous me direz, j'ai quitté l'école à 16 ans, donc je veux dire, je suis assez limité en termes de connaissances à ce niveau-là. Donc, en tout cas, pour moi, ça me paraissait important.
Et il y a le ressort narratif de la vengeance, ouais. Qui est un ressort qui en même temps fait penser aussi aux séries, qui fait penser à plein de choses, hein. Qui fait penser au western,
okay.
Qui fait penser aux narcotrafiquants. Et donc, selon vous, comment on pourrait classer votre livre, plutôt dans une influence de western ou plutôt dans une influence de thriller?
C'est une excellente question. Je pense que j'ai pas forcément pour désir de le classer dans soit une influence thriller, soit une influence western. J'avais envie de travailler sur la complexité et politique et individuelle. C'est-à-dire que chaque personne est en réalité enfermée dans un dilemme dans ce livre, que ça vienne du général, du capitaine Vega, que ce soit Sofia, que ce soit Mathias, que ce soit Anna, tous sont un petit peu coincés. Et j'avais surtout envie de... Mon idée principale était celle du fatum, du destin, celle d'Oedipe aussi en Amérique latine. Voilà. Donc, je dirais plutôt que j'ai tenté de faire un Oedipe en Amérique latine, évidemment, avec toute l'humilité. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas la prétention de pouvoir produire un Oedipe tel que Oedipe était. Par contre, je pense à Clément Rosset, qui, lorsqu'il créait son concept de double, et c'est comme ça en tout cas que j'ai voulu penser ce livre, qui dit que quand il a créé son concept de double, qui est en fait une espèce de fausse création du réel pour pouvoir mieux le définir, il a pris exemple sur Oedipe en disant non pas Oedipe a foncé dans son destin, ou Oedipe c'est l'histoire d'une prophétie, mais surtout il s'est dit lui-même, lorsqu'il a écouté l'histoire d'Oedipe en audio, il se disait, mais pourquoi est-ce que Oedipe n'a pas fait ça? Et en fait, il a réfléchi à pourquoi est-ce qu'il aurait, ce qu'il n'a pas fait ça, et qu'il aurait pu faire autre chose en réalité. Et moi, j'ai voulu faire ça dans ce livre. J'ai voulu dire, OK, lorsqu'on est confronté à un dilemme, qu'est-ce que nous, en tant que lecteurs, on pourrait se dire sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire éventuellement, mais qu'est-ce qu'on a été quand même poussé à faire? C'est l'idée du déterminisme, c'est l'idée du destin, voilà. Mais c'était cette chose que j'avais envie d'exprimer, à la fois à travers des prophéties et à la fois à travers des nœuds narratifs où chaque personne est vraiment coincée dans un dilemme, où on se dit la meilleure solution, on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure solution pour chacun de ces êtres.
Parce que vous parlez de destin, mais c'est des destins tragiques, hein, quand
même. C'est une tragédie.
Voilà, ouais. Ce sont des destins tragiques. Mais vous, quel rapport vous avez avec le destin?
Je n'y crois pas du tout. Non, j'ai pas un rapport particulier. C'est-à-dire que le destin est un sujet que j'aime explorer, mais ça n'appartient pas forcément à mes croyances personnelles. Et je pense que là-dessus...
Pourquoi vous aimez l'explorer ?
Parce que j'ai toujours eu envie de tenter de comprendre comment est-ce que les choses se produisaient. Et surtout, ce qui est intéressant dans le destin, c'est ce juste mouvement de bascule entre le fait de comprendre et le fait d'excuser. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce qu'on peut penser de... On peut passer de la compréhension d'un acte ou de pourquoi est-ce qu'un acte est né à l'excuse de cette même chose. Je m'explique. Chaque personnage dans ce livre a une histoire qu'il porte. Et parfois, des personnages qui sont profondément horribles, qui sont vraiment mauvais, qui ont des actions qui sont inexcusables. Mais bizarrement, lorsqu'on commence à comprendre ce qu'ils ont vécu et pourquoi est-ce qu'ils les ont vécues, on peut très rapidement rentrer dans un mouvement d'empathie, de se dire « Ah tiens, s'il avait vécu ça, peut-être que moi aussi, j'aurais fini par devenir comme lui en réalité ». Et je trouve que ce mouvement qu'il y a dans le destin, dans le destin, dans la prophétie, qui est cette juste limite entre la compréhension des causes qui nous déterminent et aussi les actions qui font que nous devenons un petit peu ce que nous devenons grâce à ces actions-là, est extrêmement fine. Je prends l'exemple de toutes ces séries aussi qu'on peut retrouver sur Netflix ou autre, où on revient sur la vie de tueurs en série qui marche très très bien. D'ailleurs, c'est assez angoissant de voir à quel point les gens s'intéressent à ça. Et qui on dit, ah, c'est dingue, je vais rentrer dans la peau d'un tueur en série. Et puis on se rend compte tout ce qu'il a vécu dans son enfance, qui l'a amené à agir de cette manière-là. Et on va avoir un mouvement d'empathie, de se dire, ah, c'est dingue. Peut-être que moi aussi, j'aurais pu finir comme ça éventuellement. Et je trouve que rien que le fait de se poser cette question-là peut être problématique. Et c'était un petit peu ce que j'avais envie d'explorer aussi dans ce bouquin, à travers le destin et la prophétie. Cette pitié de Delphes, en fait, qui s'immisce dans le livre et qui, à un moment donné, va dire ben, « Tiens, la première phrase est une prophétie. À l'intérieur, je vais donner aussi d'autres éléments sur ce qui va éventuellement se produire. On attend tous à ce que les choses se produisent différemment. » Mais malheureusement, tout se produit comme ça devait se produire.
C'est la raison pour laquelle votre livre a aussi comme thématique, j'ai envie de dire, entre les lignes, à la fois officiellement et à la fois, enfin, on ne peut pas spolier l'histoire, mais un autre ressort très important qui est la famille.
Oui, la famille. La famille, ça représente plusieurs choses. C'est-à-dire que la famille, pour moi, ce n'est pas uniquement les liens de sang, mais c'est aussi des liens d'amour et c'est aussi des liens de fraternité, d'amitié. D'ailleurs, dans ce livre, il y a la problématique, évidemment, de ce qui ne va pas être dit dans une famille. Notamment, on voit la complexité de la relation entre Mathias et Sophia. Sophia, qui est la tenancière de la Rosa Perdida, et Mathias, qui est son fils, qui naît à l'intérieur. Et une complexité dans le rapport, parce que chacun a envie de dire des choses qu'il n'arrive pas vraiment à dire, aussi à cause du contexte politique, aussi à cause du fait qu'ils n'ont pas été habitués dans un mouvement révolutionnaire à peut-être se livrer sur des choses qui pour eux sont importantes. De l'autre côté, il y a un lien d'amitié qui est aussi la famille entre Chicharón et Mathias, qui pour le coup est un lien qui a réellement existé chez moi. Chicharón était quelqu'un, et la seule personne qui existe en fait dans ce livre, et comme même c'est la seule personne qui est la plus peut-être étrange, mystérieuse, parfois on se demande même s'il existe vraiment, ce personnage-là. Pourtant c'est un homme qui a vraiment existé, qu'on appelait vraiment Chicharón, que j'ai vécu en Amérique latine longtemps, et c'était un ami à moi au Costa Rica, et qui m'a inspiré toutes mes relations d'amitié. J'ai voulu les mettre aussi à l'intérieur de leurs relations, notamment celle avec mon meilleur ami que j'ai perdu, et j'avais vraiment envie de faire retranscrire ça et de montrer qu'il y a des complexités, il y a aussi de la simplicité dans cette amitié-là, il y a aussi le fait que l'amitié ce n'est être que soi-même et que Mathias ait profondément fait de mauvaises actions, Chicharón aussi, tous sont coupables mais s'aiment malgré eux. Je trouve que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place. Et puis après, l'amour entre ces hommes et ces femmes qui se rencontrent, qui créent des familles, qui deviennent dysfonctionnelles par la suite ou qui désirent créer des familles qui n'ont pas le temps de pouvoir être explorées parce que la tragédie doit arriver.
Oui, parce que là, vraiment, le destin est parfaitement lié au concept de famille, quand même, dans votre livre. Pourquoi vous avez choisi de mettre au centre névralgique de votre histoire un bordel?
C'est une bonne question, parce que ce sont les bordels. Quand je suis allé en Amérique latine, j'ai entendu beaucoup d'histoires autour de bordels révolutionnaires. C'est-à-dire que il y avait des hommes et des femmes qui tenaient des lieux de résistance, qui pouvaient être à la fois des bordels, qui pouvaient être des cafés, qui pouvaient être des lieux de rencontres. Et j'ai voulu explorer un bordel qui ne soit pas un bordel. La vision qu'on va avoir du bordel très naturellement est une vision qui est très péjorative envers la femme. Et ce qui est exactement le cas dans ce livre-là, parce que des femmes sont obligées d'être prostituées pour pouvoir prendre des informations à la milice pour les donner aux opposants politiques. C'est le pourquoi est-ce que la Rosa Perdida existe en réalité. Et sauf que j'avais envie de montrer à quel point est-ce que ces femmes utilisaient ou pouvaient utiliser leur corps comme une arme, leur esprit comme une capacité à pouvoir aussi soumettre l'homme dans son incapacité à, ou en tout cas dans le fait d'être que lui-même. C'est-à-dire que les hommes viennent avec des désirs charnels, elles utilisent ces désirs-là pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont surtout pas envie de dire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une scène de manipulation à l'intérieur entre une prostituée qui doit prendre des informations. En fait, on ne sait pas vraiment, mais la réalité, c'est qu'elle doit prendre des informations à un militaire qui est un militaire profondément cruel. Et la première fois que j'avais écrit cette scène, je trouvais que c'était un peu facile la manière dans laquelle il allait se livrer. Donc, j'étais en Indonésie à ce moment-là avec des amis. J'ai pris 10 copines. On s'est rejoint pendant une soirée. Et pendant 2 heures, je leur ai dit, écoutez, imaginez-vous que vous êtes une prostituée. Ça n'a pas forcément fait plaisir sur l'instant, mais ça m'a aidé, vous allez voir. Et que vous devez prendre des informations à un militaire pour pouvoir nourrir les opposants politiques. Qu'est-ce que vous feriez pour pouvoir le manipuler afin qu'il réussisse à dire quelque chose qui, non seulement ne doit pas dire, mais en plus de ça, se force, lui, à garder en lui, c'est-à-dire essayer de ne l'oublier lui aussi pour ne pas rentrer dans différents types de pensées ou de schémas ou autre. En tout cas, lui est dans cette idée-là. Donc, tout est fait pour qu'il ne le dise pas. Et donc, toutes m'ont dit, je prends un carnet, toutes m'ont dit, ah ben moi, je dirais la jalousie. Ah, très bien, d'accord. Ah ben moi, je dirais, on est dans un bordel, ah, je dirais qu'il ne me fait pas bien l'amour, que d'autres le font beaucoup mieux. Ah, d'accord, ok, la colère. Moi, je dirais telle chose. En fait, j'ai tout noté, et à la fin, j'en ai créé une scène en le faisant passer par toutes les émotions. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir que je m'inquiète parce que ma femme a des idées extraordinaires et que c'est vraiment inquiétant.
Et que vous n'avez du coup aucun secret.
Et que j'ai du coup aucun secret. En tout cas, j'ai l'intuition d'en avoir, mais en réalité, j'en ai absolument pas.
C'est raté. Vous n'êtes pas tendre avec vos personnages. Hein. On parlait de destin tragique, mais quand même, les femmes ne sont pas épargnées. Et les hommes, vous en dites que, en fait, ce sont des animaux qui ont un besoin indispensable d'être regardés.
Exactement.
Vous avez quand même une vision de l'humanité qui n'est pas extrêmement enchantée.
Non, je n'ai pas une vision de l'humain qui soit forcément positive. Je pense qu'on est capable du meilleur comme du pire, ce sont des banalités. Mais là, j'avais surtout envie de montrer la complexité entre le fait de vouloir bien faire et d'amener à quelque chose de profondément tragique. Ou en tout cas, la continuité, le caillou posé vers l'accomplissement du tragique, du destin, de ce chant du bouc. Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant, c'est toute cette complexité qu'il y a, tout cet ensemble de couleurs qu'il y a entre le fait de vouloir faire une chose avec d'excellentes intentions et le fait que cette chose-là ait des répercussions qui soient profondément néfastes pour d'autres personnes sans avoir... En fait, j'ai ni plus ni moins exploré cette phrase de Socrate qui dit que nul n'est méchant volontairement et que le mal naît de l'ignorance, de savoir ce qui est bien, de ce qui est mal. Et les gens qui agissent mal dans ce livre, soit le font par pure volonté, ou par poursuivre les ordres qui leur ont été imposés, soit par ignorance. Sophia a des choix qui sont difficiles à faire et parfois peut prendre les plus mauvaises décisions uniquement par ignorance. Par ignorance des situations ou par ignorance du monde qui l'entoure aussi. Donc que ce soit autant chez les militaires, que ce soit autant chez les opposants, parce que tous mes personnages, j'ai voulu qu'ils soient un petit peu complexes, notamment le personnage central qui est celui de Sophia, la tenancière, où on a énormément d'empathie pour elle parce qu'on se dit mais elle a vécu les tortures, elle a eu un enfant qu'on lui a enlevé et qu'elle n'a jamais cherché en réalité. En tout cas, cet enfant-là reste un peu évasif, cette idée-là reste un peu en arrière-pensée mais n'est jamais vraiment frontale dans le livre. Et derrière, va obliger des femmes à se prostituer, va torturer des gens dans la cave en mettant du boléro pour qu'on n'entende pas les cris. Ce sont des choses qui ont vraiment existé, que Bolaño raconte bien mieux que moi, mais que j'ai voulu illustrer aussi à travers cette complexité entre à partir de quel moment est-ce qu'on peut se battre pour une cause et très rapidement basculer dans son opposé. Et pour cela, j'ai pris exemple sur deux événements historiques réels. Le premier, c'est un opposant politique qui s'appelait El Fanta. El Fanta, qui était à la base un communiste, qui était vraiment un opposant politique, qui a été un jour arrêté par Pinochet, en tout cas par la milice de Pinochet au Chili, et qui a été torturé, et qui, pour, en tout cas ce qu'il dit, sauver sa famille, a tenté de déjouer certains plans, mais a quand même collaboré pour d'autres. Et petit à petit, très lentement, est devenu lui aussi tortionnaire. Il a changé et basculé complètement de côté. Véronica Estey a fait un livre qui s'appelle « Survivre à la survie », qui en parle extrêmement bien. Et j'ai trouvé ce personnage complexe entre... Attends, ça a été quand même un communiste, quelqu'un qui s'est battu pour justement lutter contre le régime de Pinochet, mais qui, sous l'effet de la torture, sous l'effet de la violence, sous l'effet de la séquestration, a carrément basculé pour devenir lui aussi tortionnaire. Et puis, j'ai été un petit peu plus loin pour essayer de voir si, dans l'autre sens, ça avait existé. Et ça a existé, évidemment, avec certaines limites, avec un homme qui s'appelle Mojares. La quatrième dimension est un livre qui a été écrit par Ferrada, si je ne me trompe pas, qui parle extrêmement bien de ça, de cet homme qui, en 84, était un tortionnaire qui travaillait pour Pinochet. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des tortures. On ne savait pas, en tout cas, le bruit courait, mais tout était caché. Des centres de torture ne portaient pas le nom de centre de torture. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais les médias étaient complètement manipulés. Il y avait une manipulation constante qui faisait que on leur montrait des images qui n'avaient rien à voir avec la réalité, afin que le peuple ne se rende pas compte et qu'il y ait un ennemi commun, qui était les subversifs. En tout cas pour Pinochet, ce qui fait qu'il y avait des opérations la nuit, ce qui fait qu'il y avait des opérations où c'était de la légitime défense, tout était constamment modifié. jusqu'au moment où cet homme-là, qui était un tortionnaire qui a torturé, a décidé d'admettre qu'il avait torturé, donc a été interviewé, a pris la parole et écrit un article. Il n'a pas écrit un article, c'est une femme dont je ne me rappelle plus le nom qui a écrit cet article-là, qui s'appelle « J'ai torturé ». Et il revient sur tout ce qui se passe réellement en 84, donc c'est quand même 6 ans avant le référendum de Pinochet. Et ça a eu un impact qui a été énorme parce qu'il a tenté, par culpabilité ou pour 1000 raisons qui sont justifiables ou non justifiables, de vouloir lui aussi contribuer à mettre de la lumière sur des événements qui sont réels. Et donc, ces personnages m'ont vraiment beaucoup inspiré dans leur complexité. Et j'ai voulu les transmettre dans ce livre. J'ai voulu en donner des espèces de particules pour montrer qu'on soit opposants politiques, soit les MIR, par exemple, chez Pinochet, ou que ce soit la milice. Tout est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
Mais dans votre livre, on voit bien que vos personnages sont tous mus par une croyance dans quelque chose. La foi de prendre le pouvoir ou la foi de le défendre. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire d'extrême pour défendre vos idées ?
Je pense qu'un bon livre pour moi est moins un livre qui apporte des réponses qu'un livre qui pose de bonnes questions. Ce qui est une très bonne manière de me sortir de votre question.
Pas mal.
Pas mal.
Pas mal.
Non.
Cette question, en tout cas, vous intéresse puisque oui, vous nous la soumettez.
Exactement. J'avais plutôt envie de montrer jusqu'à où est-ce qu'on peut aller pour défendre ses propres idées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel aujourd'hui. On voit des idéologies constantes qui sont de plus en plus extrêmes, qui se propagent sur les réseaux sociaux de manière vraiment frontale. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour défendre ces idées-là? C'est-à-dire, à partir de quand est-ce qu'on peut avoir ou une forme d'arrière-pensée, de capacité de pouvoir penser contre soi-même et d'aller contre ses propres idées, contre ses propres idéologies, qui n'est ni plus ni moins que, en fait, tout simplement de l'esprit critique. Donc, je dirais pas que je pourrais faire n'importe quoi pour mes idées, en tout cas moi en tant que personne. Je dirais que je ferais n'importe quoi pour aller aussi contre mes idées, pour aller aussi contre moi-même et tenter d'aller explorer des choses qui me sont très éloignées. Par exemple, moi, quand j'ai perdu la foi, j'étais quelqu'un de très croyant, j'ai perdu la foi. Et lorsque j'ai perdu la foi, j'étais extrêmement critique envers les croyants, jusqu'au jour où j'ai décidé de m'intéresser aux grands textes et de me rendre compte que j'avais beaucoup de similitudes avec mes propres idées et que tout ce que je combattais était en réalité plus l'illusion d'une réalité qu'une réalité telle qu'elle est. Et donc, depuis ce jour-là, ou depuis que je me suis rendu compte que j'étais profondément malveillant, en tout cas, dans les idées que j'ai pu avoir lorsque j'ai perdu la foi et que j'ai voulu me rebeller contre tout ce qui était le dogmatisme, j'ai pris beaucoup plus de bienveillance là-dessus en me disant je pense que se battre pour ses idées, c'est aussi et surtout se battre contre ses idées pour pouvoir essayer de les faire évoluer et de les amener vers une direction qui soit un peu comme la science va essayer de réfuter des études afin de pouvoir la faire évoluer. Je tente de réfuter mes propres croyances pour pouvoir peut-être les faire évoluer.
Et c'est aussi en cela que le bordel, donc, que vous mettez dans ce livre, encore une fois, comme centre névralgique de toutes les actions, est intéressant, puisque vous en dites que d'abord c'est un lieu d'humanisation, d'une part, et d'autre part, vous dites que c'est aussi le lieu pour apprendre à défendre ses idées.
Exactement.
Parce que. Ben, je vous laisse faire la phrase.
Ce bordel, je voulais pas que ça soit. Ce bordel a quelque chose d'un peu mystique en réalité. Parce que lorsque Sophia a créé cet univers-là, les animaux sont autour, toujours un observateur. La nature est florissante, parfois un peu tropicale. Il y a vraiment une ambiance qui se crée dans cet univers-là. Et les femmes viennent pour apprendre ce que c'est que leur féminité, leur corps, la découverte d'elles-mêmes, avant tout. Et en fait, les hommes regardent, à la base, c'est ça, avant que les portes du bordel ouvrent, les hommes regardent et sont complètement dépendants de leurs désirs et sont comme en train de baver devant ces femmes qui, elles, en fait, sont en train de prendre possession de leur corps dans un lieu qui en impose complètement son opposé, en réalité. Et j'avais envie de jouer sur ce paradoxe-là, comme un personnage à l'intérieur qui s'appelle Dolores, qui n'est plus ni moins que douleur, et qui va trouver la liberté dans un lieu qui est le reflet de ce qu'il a déjà enfermé depuis toute petite. Elle avait été séquestrée, elle avait été enfermée par un proxénète pour qu'il avait obligé à la prostituer, et au final, le seul endroit où elle trouve cette liberté-là, c'est dans les bras de Sophia, dans ce bordel. Et donc, il y a une espèce de mesquinerie du destin qui lui dit que, tiens, dans cet endroit-là, bizarrement, l'endroit qui t'a perverti au maximum va aujourd'hui peut-être te faire sentir plus libre parce que la personne qui le tient a un objectif derrière ce bordel-là. Ce n'est pas juste un bordel financier, parce qu'en fait, il n'est jamais question d'argent. C'est vraiment un bordel d'idées, exactement. En fait, c'est vraiment un bordel d'idées dans le sens où ces femmes ont toutes des idées communes pour lesquelles elles se battent et vont toutes aller au bout et ont une confiance aveugle en Sophia pour pouvoir essayer de démanteler cette dictature, pour pouvoir essayer d'aller chercher des informations jusqu'au bout. Sauf que, eh ben, les relations charnelles font que parfois on rencontre des hommes à l'intérieur qui vont venir et on peut peut-être tomber amoureux de certains et que les choses sont beaucoup plus compliquées parce que l'humain en lui-même est beaucoup plus complexe.
C'est un livre assez charnel, j'allais dire, puisque c'est un livre physique en tout cas. C'est-à-dire que en dehors de la question du bordel, de toute façon, il s'agit des corps qui souffrent, des corps qui s'aiment, des corps qui se battent, mais du corps quand même. C'est vraiment un livre physique au sens premier du terme. Quel rapport vous avez avec votre corps ?
Écoutez, j'en prends pas trop soin. vous voyez, y a un peu d'encre un peu partout.
Pourquoi ?
Bah, pour moi, alors c'est drôle parce que je n'ai jamais parlé de mes tatouages parce que c'est la chose qu'on voit le plus et pour moi est la chose qui est le plus intime en réalité dans ma vie. Ça reflète toute une partie de ma vie. Ça a été aussi un mouvement de rébellion chez moi. J'ai vraiment été quelqu'un de très rebelle. J'ai quitté le domaine familial à 16 ans. Je leur ai fait vivre un enfer. Je suis quelqu'un qui me battait beaucoup, qui était vraiment avec un peu une âme de révolutionnaire constamment en train d'aller contre. Je me suis construit contre et contre ma famille et contre la société et contre le regard des autres. D'où cette expansion qui s'est aussi vue sur mon visage à travers les tatouages, à travers le fait de me différencier, ça j'en ai entièrement conscience. Et puis il y a le côté du corps qui est le corps en tant qu'outil aussi, notamment pour ces femmes, là je parle dans La Rosa Perdida, qui sont pour elles non pas... En fait, j'avais vraiment pas envie qu'on ait une vision péjorative de toutes ces femmes qui sont dans ce bordel-là, quand même on pourrait l'avoir, mais plutôt qu'on l'observe comme un lieu complètement paradoxal. C'est-à-dire que ceux qui viennent dans ce bordel, ce ne sont pas que des hommes, ce sont aussi des femmes qui viennent pour discuter avec d'autres femmes. Ce sont aussi des grands-mères qui viennent passer des moments. Ce sont aussi des endroits où les révolutionnaires se sentent bien, se sentent protégés et disent qu'on fait, tu nous rends vivants. Ils disent à Sophia, elle leur apporte des arepas, elle leur apporte de quoi manger, elle leur apporte de quoi les aider constamment, alors qu'ils sont constamment en train de se cacher pour ne pas être repérés. Et il leur dit, tu nous rends vivants, quoi. Et j'avais envie de jouer sur ce paradoxe-là, et notamment à travers ces corps qui parfois sont... Alors, quand j'ai fait le livre audio, c'est vrai que je me suis rendu compte que les corps étaient souvent huilés. Alors, je crois que j'ai un problème avec ça, mais j'en suis peut-être pas rendu compte directement. Ça, il faudrait que je vois avec ma psychanalyse ou autre. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi les corps huilés me font quelque chose. Mais c'est pas du tout volontaire.
Ouais. En tout cas, c'est pas anodin que le corps soit si présent dans votre écriture.
Non, pas du tout.
C'est ce qu'on comprend. Il y a un autre sujet qui m'intrigue beaucoup, c'est que votre livre a quelque chose de tragique, vous l'avez dit, mais de profondément triste aussi. Déjà parce que bah, y a beaucoup de morts hein, dans ce livre, et puis on s'attache au personnage, on n'a pas trop le temps quand même, ça va vite. Vous dézinguez, allez hop. Et vous avez fait sur Instagram une vidéo qui s'intitule Les quatre livres les plus tristes pour moi, ouais. Dont l'excellent livre Suicide d'Edouard Levé. Vous parlez de Dostoïevski. Hein. Quel rapport vous avez avec le chagrin pour le maltraiter comme ça, comme vous le faites?
On fait une sublime psychanalyse.
Mais écoutez,
très très bonne idée.
Vous avez de la chance, c'est gratos.
C'est vrai, c'est vrai.
Profitez-en.
Je pense que j'ai récemment écouté les conférences au Collège de France de Wajdi Mouawad et je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il dit lorsqu'il parle d'ombre en soi qui écrit et que on fait la place à quelque chose en nous qui a besoin de s'exprimer. Et que le but de l'écrivain n'est pas de tenter de le contrôler, d'en prendre possession, mais surtout de l'aménager, de le laisser maturer comme une bonne viande, et puis de petit à petit faire distiller ce jus jusqu'à le réussir à le faire sortir par fragments. Et je pense que cette ombre qui vit en soi, c'est aussi toutes mes expériences, notamment, ben voilà, comme j'expliquais avant, ce livre, c'est beaucoup de décès, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de peine. Et il y a quelque chose qui me touche profondément dans les livres qui sont tristes, dans les films qui sont tristes, parce que il y a quelque chose de cathartique qui me permet de pouvoir me sentir profondément vivant. Et je pense que ce soit le thème qui n'est pas un thème dans ce livre, mais qui est un thème que j'aimerais explorer, qui est celui de l'horreur, qui est le thème de l'angoisse, qui est aussi voilà, celui très proche de la tristesse. Ça me permet de me sentir vivant quand j'écris et de me dire que ben, y a cette chose en moi qui a besoin d'avoir un peu plus de place pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir elle aussi mettre une larme sur sa feuille et tenter tant bien que mal de dire ce qui lui paraît important. Donc je dirais que ce n'est pas quelque chose de profondément volontaire dans mes écrits, de vouloir transcrire la tristesse ou la souffrance, mais qui est quelque chose qui a besoin de prendre sa place et qui s'exprime à travers l'écriture.
Parce que vous me dites, en fait, on fait un peu une psychanalyse, mais vous savez bien quand même qu'un auteur raconte d'une façon poreuse beaucoup de lui à travers son texte, même si ce n'est pas une autofiction ou une biographie, on est bien d'accord avec ça. Est-ce que ça, vous êtes à l'aise avec ça? Ou est-ce que ça, c'est délicat pour vous comme sujet?
C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas capable d'écrire d'autofiction, ou je ne suis pas capable d'écrire sur moi. Parce que ce n'est pas par pudeur ou autre, c'est parce que, pour moi, ma manière de pouvoir m'exprimer, elle passe par l'histoire, parce que j'ai grandi avec ça, à travers toutes ces légendes. Toute ma vie a été faite que d'histoires constantes dans ma famille. D'ailleurs, c'est une famille qui raconte beaucoup d'histoires dans le sens péjoratif aussi du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de trucs qu'on préfère ne pas faire remonter à la surface. Mais tout le monde arrive à parler de soi en s'occupant de l'autre, arrive à devenir... à s'extraire d'elle-même en parlant du voisin. Et depuis toujours, ça a été ça, dans ma famille du moins. Donc je pense que mon seul moyen à moi de pouvoir parler de choses qui me sont importantes sont le fait de pouvoir les vivre à travers les yeux d'un autre, et parfois quelque chose qui est très éloigné. J'ai appris récemment que j'avais des origines colombiennes, mais je ne savais pas. Enfin, j'ai su après le livre, je dirais. Il n'y a pas... j'ai su ça après le livre. Ma mère m'amène il y a 3 semaines, donc le livre était quasiment allait sortir, mais moi, il était terminé depuis bien longtemps. Elle m'amène comme ça des documents qu'elle me pose sur le bar et qu'elle me dit, ah, mais je t'avais pas dit, mais on a un arbre généalogique que ma mère a fait, que mon père a fait aussi, qui remonte jusqu'au 17e siècle. Je dis, j'ai 30 ans, c'était peut-être l'heure de me le montrer. Elle gardait encore combien de temps? Fait oui, même que ma mère a aussi écrit un livre sur sa vie. Enfin, on a plein de lettres,
dis donc, famille pleine de surprises.
Ouais, voilà, hein. J'étais pas du tout au courant, quoi. Enfin, c'était il y a 3 semaines, très bien. Et puis après, il y a ce truc génial de mais je pensais que je te l'avais dit, forcément. Et donc, j'ouvre ces papiers là, et en fait, là, je me rends compte, ça remonte jusqu'à très loin. Il y a même les papiers. Je viens d'une famille d'esclaves avant Madagascar, où il y avait même les papiers en tant qu'esclave, où c'était vraiment écrit, enfin voilà, et qui remonte jusqu'en Colombie, en fait, en réalité, où on a eu un passif en Colombie, parce que c'était comme une espèce de plaque mouvante, où il y a eu beaucoup de passages, après, avec des bateaux espagnols qui partaient jusqu'à aux Indes portugaises. Enfin voilà, ça a été un périple assez dingue. Et puis c'est fou quand même d'écrire sur quelque chose qui me paraissait très éloigné, alors que j'y ai vécu, que ça me passionne. Hein. Et qu'en fait, c'est beaucoup moins éloigné que ce que je m'étais imaginé. Et donc, toutes ces histoires qui sont complètement farfelues dans ma famille sont peut-être le moyen pour moi d'en faire des légendes, d'en faire des fictions, afin de pouvoir parler de moi, surtout en parlant des autres.
Donc finalement, si je vous suis, la narration serait une forme de bouclier, de protection, et en même temps un endroit pour vous de grande compréhension, puisque vous lisez beaucoup, vous en faites des critiques. Donc finalement, c'est dans l'histoire que vous comprenez le mieux, sans doute, mais surtout que vous êtes le plus à l'aise.
Je dirais que c'est mon seul moyen à moi. Je dirais que c'est mon seul moyen de pouvoir parler de choses qui me sont importantes. C'est pas que je pourrais pas faire d'autofiction, c'est que je n'y arriverai pas. Et que la seule nécessité, je pense que pour moi, l'écriture est une nécessité. C'est-à-dire que j'écris parce que j'ai besoin de respirer, parce que j'ai besoin de vivre, et que pour moi, ça fait partie entièrement de ma vie. C'est quelque chose qui me passionne profondément. Et si demain, on me coupe les deux mains et qu'on m'ôte la possibilité de pouvoir écrire, alors à ce moment-là, je perdrai tout ce qui me fait vivre, en réalité. Donc, l'écriture est vraiment une nécessité. Et dans cette nécessité-là, c'est une nécessité de raconter des histoires, et aussi de me rappeler de ma famille, de me rappeler de mon grand-père, de me rappeler de tous ces moments enfants.
De faire vivre des morts.
Exactement. C'est pour ça que mon influence principale est pas du tout Garcia Márquez, mais plutôt Juan Rulfo, en réalité, qui travaille énormément sur ce truc de refaire vivre les morts constamment, avec des voix, les refaire intervenir. Et cet auteur a une influence énorme chez moi, alors que j'écris pas du tout dans le même univers que lui. Mais le fait de vouloir rentrer en contact avec des gens qui ne sont plus là, de leur redonner la parole, aussi moi, à travers ses écrits, en me disant peut-être que si mon grand-père était vivant et qu'il lisait ce livre, peut-être qu'il se dirait « j'aurais pu inventer cette histoire ».
Vous dites écrire, on pourrait vous dire aussi raconter, pour plusieurs raisons. D'abord, vous choisissez dans votre livre un personnage qui est conteur. Enfin, il écrit, mais il est aussi un peu conteur, il raconte les histoires. Oui. Vous-même, vous racontez des histoires en les écrivant, mais en vous prêtant volontiers sur les réseaux sociaux à une existence orale. Votre livre pourrait répondre à ce qu'on pourrait se raconter de génération en génération. Mmh. Il y a quelque chose de très fort aussi dans votre choix de faire parfois des conférences entre philosophie et réflexion sur les neurosciences cognitives. Donc de faire des ponts, mais tout ça dans une forme d'oralité. Oui. Donc, vous imaginez la narration non seulement comme une écriture, mais aussi comme un lien à l'autre dans l'échange.
Je pense que nous sommes composés d'histoires. Notre identité est faite d'histoires. Paul Ricoeur en parle bien mieux que moi. D'ailleurs, nous parlons de l'histoire du monde, l'histoire de la France, l'histoire des autres pays. C'est-à-dire que notre identité se construit aussi à travers d'autres histoires qui nous constituent. Et que on se raconte aussi beaucoup d'histoires. Je pense, Camus le dit très bien. Il dit, si vous voulez être philosophe, on ne pense qu'à travers images. Si vous voulez être philosophe, écrivez des romans. Et c'est vrai. Je trouve qu'on ne pense qu'à travers des images. C'est pour ça que, pour moi, l'aspect visuel, l'aspect oral est très important. D'ailleurs, toutes les légendes qui sont à l'intérieur de ce livre sont des légendes orales. Et l'Amérique latine est composée de légendes orales. Beaucoup de lieux de culte sont extrêmement différents et ne proviennent que de légendes orales. Je pense à Jesús Malverde, qui intervient d'ailleurs à la fin du livre très récemment, l'espace d'un paragraphe, qui est le saint des narcotrafiquants, mais qui est aussi le saint des marginaux. Voilà, on n'est pas au courant de ça. Et il a une histoire. Il a une histoire qui parle de nous. Il y a énormément de personnages. Chalino Sanchez, qui était un chanteur de corrido au Mexique, à Culiacán, qui a aussi une histoire incroyable, qui chantait des narco-corrido, mais qui se battait contre, en fait, concrètement, et qui, un jour, en concert, a reçu un morceau de papier où on lui dit « Si tu n'arrêtes pas de chanter maintenant, tu vas mourir. » Et il s'avère qu'il n'arrête pas de chanter, qu'il continue dans ce mouvement de rébellion et qu'il finit par se faire tuer à la fin. Et il y a même une vidéo de cet événement-là. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont réellement existé. Et que aussi, l'identité de certains écrivains se construit à travers des histoires. Je pense notamment à Garcia Márquez ou même à Borges. Ou Garcia Márquez, qu'est-ce qu'il dit ? Il a lu La Métamorphose de Kafka. Il a écrit La Hoja Alaska. Il a écrit tous ses premiers ouvrages, Patlette pour le colonel. Et puis, à un moment donné, il ne sait pas comment prendre son temps de solitude. T'as Alvaro Mutis, son meilleur ami, qui vient le voir, qui lui tend Pedro Páramo de Juan Rulfo et qui lui dit « Tiens, là, tu vas enfin apprendre quelque chose. » Et il s'avère que c'est cette rencontre avec ce livre qui fait que ça lui permet de pouvoir se débloquer pour pouvoir par la suite produire « Cent ans de solitude ». D'ailleurs, quand on lit les deux, on retrouve beaucoup de similitudes avec Pedro Páramo et aussi avec Elena Garro, qui est la femme d'Octavio Paz, qui a écrit « Les souvenirs de l'avenir ». On a énormément de similitudes. On voit qu'il a repris des choses pour tenter de construire son récit. Ça, ce sont des histoires qui permettent à l'écrivain de pouvoir par la suite en produire. Et puis, des histoires qui constituent l'identité d'un écrivain. Très récemment, mon ami Miguel Bonnefoy me racontait une histoire sur Borges. Borges a fini sa vie aveugle et part à Dublin. Part à Dublin pour faire une conférence et va visiter aussi les rues de Dublin. Ses amis lui disent « Mais tu ne vois rien, tu n'as jamais été à Dublin. Comment tu vas faire pour pouvoir te situer, quoi, en réalité ? Tu ne veux pas qu'on t'aide ou qu'on vienne avec toi ?»« Non, 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 j'ai lu James Joyce, je connais Dublin par cœur. Enfin, voilà, ne vous inquiétez pas. » Il s'avère qu'il s'arrête à un feu et quelqu'un lui attrape le bras. Cette personne lui dit « Écoutez, est-ce que je peux venir avec vous me balader le temps d'un instant ?» Borges lui dit « Bien sûr, il n'y a pas de problème, venez. » Et donc ensemble, ils vont se balader. Et cette personne lui dit « Regarde, à gauche, il y a tel monument. À droite, il y a telle chose. » Et Borges qui lui raconte aussi les histoires de ce qu'il y a, de ce qui se trouve à tel endroit, dans tel lieu, de toutes les histoires qu'il a entendues. Ils passent l'après-midi ensemble. À la fin de l'après-midi, L'homme qui était avec Borges lui lâche la main et lui dit, cet homme l'a dit à Borges, je vous remercie d'avoir aidé un aveugle. Et en fait, que ça soit vrai ou que ce soit faux, ce sont des histoires qui constituent l'identité d'un écrivain, qui constituent la pensée de cet écrivain-là. Et je trouve que rien n'est mieux pour nous faire penser, pour nous faire réfléchir, pour nous faire vivre, que de nous raconter des histoires. Et je le vois avec ma fille, elle ne comprend ce que je lui dis que quand je lui raconte une histoire. Donc, j'essaie de le faire pour moi. Et
même pour les adultes, du coup.
Même pour les adultes.
Sur ces personnages et ces personnes réelles qui ont réussi à se battre, à combattre, à ne pas plier, à ne pas céder, qu'est-ce que ça déclenche chez vous? De l'admiration, de la curiosité, de l'empathie?
J'ai beaucoup d'admiration sur le fait de où est-ce qu'on peut aller, voilà, pour ces idées, comme je disais tout à l'heure, où est-ce qu'on peut aller pour ces idées. Ce sont des révolutionnaires, et je pense que j'ai ce truc là dans mes gènes. Voilà, comme je disais, du côté italien, du côté de mon papa, enfin voilà, ils ont mes arrière-grands-parents ont quand même gardé les armes des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale à Sarlat. Ils ont été impliqués pour pouvoir aider les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont immigré l'Italie parce qu'il avait craché sur la photo de Mussolini. J'ai quand même quelque chose en moi de prédéfini qui me pousse à avoir cette idée de me battre contre l'injustice ou contre ce qui me paraît, en tout cas, ne pas être juste. Maintenant, ces révolutionnaires, ces grands mouvements, je pense à Sancho Panza, je pense à Zapata, ou ça peut être le Che Guevara, qui a été voilà, un emblème ou autre, ils sont des personnages qui sont complexes. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est cette complexité-là. C'est-à-dire qu'ils se battent pour des idées qui, dans le contexte politique dans lequel ils vivent, est indispensable. C'est-à-dire que ils aident le peuple à pouvoir déclencher par la suite d'autres mouvements, de pouvoir donner un brin d'espoir. C'est pour ça que dans ce livre, on rentre dans une dictature. À la base, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il y a une tragédie, le monde roule tout seul, il y a une dictature, tout le monde se tait, les choses se font telles qu'elles se font. Et surtout que ce village n'existe pas, se déplace les nuits sur les branches des ceibas, et qu'un cartographe aurait tenté 1000 fois de le répertorier, n'aurait jamais réussi. Et un jour arrive un homme dans ce village-là qui va être comme un peu le Che et dire « Ok, là, je vais vous donner de l'espoir là où vous n'en avez plus ». Il va juste arriver et semer des graines, des idées, comme ça, doucement. On comprendra par la suite les raisons pour lesquelles il est arrivé, mais il va semer comme ça des graines pour pouvoir créer un mouvement et surtout aider le peuple. Maintenant, jusqu'où est-ce que ça peut aller, ça? C'est-à-dire que les mouvements révolutionnaires, comme on prend les Montoneros, par exemple, en Argentine, sont des mouvements révolutionnaires où ça a été horrible. Il y a eu énormément de morts, il y a eu des séquestrations, ils ont reproduit exactement les mêmes actions que ce contre quoi ils se battaient, mais pour des raisons complètement différentes et complètement opposées. Et donc, je trouve que se battre pour ces idées est quelque chose de profondément beau. Je pense que, voilà, lors de la ségrégation, ce qu'a fait Nelson Mandela, Rosa Parks et bien d'autres personnes se sont battues aussi pour leurs idées. Mais jusqu'où est-ce que ça peut aller? Et à partir de quand est-ce que ça peut basculer de l'autre côté? Et c'est ce que j'avais envie de montrer dans ce livre-là. C'était justement le mouvement de bascule.
Et cette idée-là, on l'a bien comprise dans la trame narrative de votre livre. Ça va être ma dernière question, Christopher Lacquiez, puisque malheureusement, ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Ça n'a rien à voir, je vous préviens tout de suite. Qu'est-ce que vous faites tout le temps par déformation professionnelle?
Qu'est-ce que je fais tout le temps par déformation professionnelle?
Oui.
Ah. C'est une très bonne question, j'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce que je fais par déformation professionnelle?
Pendant ce temps, je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous écrivez beaucoup, vous faites des posts, ouais. Vous commentez des livres, donc vous êtes quand même baigné dans un univers littéraire.
Ouais.
En l'occurrence, le professionnel étant à cet endroit-là.
J'essaie de m'intéresser à des choses qui sont aussi complètement éloignées, vraiment complètement éloignées. C'est-à-dire que professionnellement, il y a des choses sur les. Enfin, je suis obligé d'aller chercher certains livres, de parler de certains ouvrages, d'avoir envie de mettre en avant aussi, pas forcément ce qui est connu, mais aussi quelque chose d'à côté. Les marginaux sont ou les gens qu'on croise mais qu'on ne regarde pas sont des personnes qui m'intéresse vraiment profondément et que j'ai vraiment envie d'explorer. Souvent, je m'intéresse aussi à ce genre de livre-là. Je pensais, justement, Édouard Levé m'a été conseillé, alors qu'à la base, c'est pas du tout quelque chose qui m'aurait attiré instinctivement parlant. Lorsque j'ai découvert, j'ai pris vraiment une immense claque. Mais j'essaie constamment d'aller explorer des choses qui sont à l'encontre et de mes tendances naturelles et instinctives qui vont être, par exemple, je dois travailler sur un certain livre parce qu'il faut que je mette ce livre là en avant. Ben, de un, si le livre ne me plaît pas, je le fais absolument pas. Et de deux, de quelles idées est-ce que ce livre nourrit aussi? C'est quelque chose d'important. Je pense que vu quand on a une voix sur les réseaux sociaux, c'est important aussi de prendre en compte ce dont on va parler et aussi d'aller aussi chercher des autrices qui m'étaient complètement éloignées, peut-être dans des sujets qui me parlent pas du tout, et de parfois pas du tout lire, et de parfois aller m'intéresser à des sujets qui soient complètement différents, par exemple la physique quantique, voilà. Mais je pense que toute cette tentative d'aller à l'encontre ou à l'opposé de ce qui nous paraît instinctif ou de ce que je suis obligé de faire par rapport à mon travail, c'est surtout de la curiosité, parce que j'ai pas été à l'école bien longtemps et j'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de connaissances. Par contre, ce qui me passionne, j'essaie d'aller jusqu'au bout de ce qui me passionne, et parfois ce qui me passionne sont des choses qui sont complètement contradictoires et opposées, et je me laisse un peu guider par ça.
Ça veut dire que vous pourriez lire un auteur avec lequel vous ne partagez pas du tout les idées?
Complètement. Ça veut pas dire que je le mettrai en avant, ça veut pas dire que j'en parlerai, mais le lire, oui, complètement.
Merci beaucoup, Christophe Lacaze.
Ben, merci à vous.